Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile. Alors aujourd'hui, faisons notre émission « Pour la dignité ». Alors au sommaire, ce soir, on va revenir sur la très belle soirée qu'il y a eu à Digne le 9 mars autour du film « Bienvenue ». Et l'on parlera justement du problème de l'accueil des réfugiés et notamment de la politique de Donald Trump. Ensuite, je vous donnerai des nouvelles de Biram Dahabé, prix des droits de l'homme de l'ONU, qui était en visite en France. Ensuite, on parlera d'un conflit qui est assez oublié, celui du Yémen. Et puis, de la responsabilité des entreprises mères par rapport à leurs filiales, avec une interview de Sabine Gagné. Ensuite, on parlera des pétitions qui sont en ligne et que vous pouvez aller, bien sûr, signer sur amnesty.fr, du prix ambassadeur de conscience 2016, et puis des activités du groupe Dinois, et puis enfin une bonne nouvelle pour terminer l'émission. Voilà, donc nous allons donc commencer par cette belle soirée qui s'est tenue le 9 mars à Digne-les-Bains, au Cine-Étoile, dans le cadre du festival pour les droits humains. C'est un festival qui est organisé par Amnesty Région PACA. Mm-hmm. Donc nous sélectionnons un certain nombre de films, souvent inédits en France. Et pendant tout le mois de mars, des groupes de la région. Alors cette année, beaucoup de groupes en PACA et puis quelques-uns en Languedoc-Roussillon aussi. Nous organisons des débats, des ciné-débats. Alors ça peut être soit dans des cinémas comme à Digne, au Ciné-Étoile, tout public, ou alors ce sont des films, souvent des courts-métrages qui sont réservés, que nous passons dans des établissements scolaires par exemple, et qui suscitent aussi de nombreux débats. Donc sur Digne, nous avions choisi deux films, un à court d'enfance sur l'histoire des Réunionnais de la Creuse, ces enfants qui ont été volés à leur famille pour aller repeupler les provinces françaises désertées par l'exode rural, notamment la Creuse, hein, puisqu'on a appelé souvent ces enfants les enfants de la Creuse, et toutes les violations des droits des enfants et des droits humains qui ont été perpétrées par cette folle idée. Et c'était dans un passé assez récent, puisque c'était entre 61 et 80. Que 2150 enfants ont été ainsi arrachés à leur famille. Et puis, donc, on avait choisi le film Bienvenue, qui est une comédie autour de l'accueil des réfugiés. Et nous avions associé les restos RESF, le Secours Populaire, le Secours Catholique. Et nous avons... ça a été une très belle soirée, puisque la salle qu'on nous avait... données, affectées, a été très rapidement remplie. Et heureusement, le directeur du cinéma a pu ouvrir une deuxième salle parce qu'il y avait encore 50 personnes qui attendaient pour assister au ciné-débat. Donc, on a rempli une salle et plus 50 personnes dans la deuxième salle. Et ensuite, à la fin du film, on s'est tous regroupés pour assister au débat. Voilà, donc c'était un film norvégien. Donc l'histoire, en gros, je vous rappelle, donc c'est quelqu'un qui a un hôtel en Norvège qui est en complète décrépitude. Et il se dit, tiens, je vais faire centre d'accueil pour les réfugiés et le gouvernement va me donner de l'argent pour cela et ainsi je vais pouvoir refaire mon hôtel parce qu'il a besoin d'énormément de travaux. Voilà, tout ça avec quand même un fond de racisme un peu venant de son éducation, quoi. C'est sa façon d'être, il a un fond raciste. Et en fait, au contact de ces réfugiés, on s'aperçoit que finalement, il a quand même un bon fond parce qu'on le voit évoluer. Et petit à petit, il essaie de faire du mieux possible pour que ces réfugiés soient bien. Et on le voit changer. Et ce film, finalement, sous forme de comédie, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour, mais en même temps, il y a tous les drames humains qui ressortent, hein, tout ce qu'ont vécu ces gens, la traversée de la Méditerranée extrêmement dangereuse, les violences subies, notamment dans les prisons en Libye avant de traverser, les violences subies aussi par des passeurs en Italie, enfin, pendant toute leur périple, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Et donc le film a été bien reçu et finalement ensuite on a eu un débat très intéressant et en fait le débat reflétait un petit peu le film. On a eu des intervenants qualifiés puisqu'il y avait notamment le directeur du CAO, le Centre d'accueil et d'orientation de Champtercier. Il y avait aussi la maire de Champtercier et ces deux personnes ont notamment... fait le parallèle en disant que à Champtercier, à la première réunion, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préjugés sur ces personnes qui allaient causer énormément de problèmes. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ben, ça se passait très bien. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont portés volontaires pour...
Oui, beaucoup de bénévoles qui animent des ateliers, qui font
voilà.
des concerts, des choses, et puis des cours de français surtout.
Et des cours de français, ouais. Oui. Et finalement, ça a été très riche pour ça, et on s'est rendu compte que finalement, les citoyens étaient beaucoup plus dans l'accueil que nos politiques, hein, qui pensent plus... à protéger les frontières que protéger les réfugiés. Or, quand une personne vit dans un pays en guerre ou sous la dictature, hein, comme l'Érythrée par exemple, tous les droits essentiels pour vivre dignement sont bafoués. Et le seul droit qui reste, c'est de s'enfuir et de demander l'asile. Donc en fait, ce droit d'asile, c'est un peu le dernier des droits quand on a perdu tous les autres. Et nos pays riches doivent s'enorgueillir de le respecter et de le mettre en œuvre de façon équitable aussi, de bien répartir. Et on s'aperçoit très vite que quand on rentre en contact de ces personnes, c'est de la richesse qu'on nous apporte. Hein, il faut vaincre tous ces préjugés et se rendre compte que voilà, la vie elle est faite d'échanges et qu'on se doit aussi de soutenir les personnes en grande difficulté, parce que nous pouvons, nous, un jour, l'être. On l'a été aussi, si on se rappelle la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les Espagnols. Enfin, il y a des milliers d'exemples. Donc, voilà. Alors, on était vraiment très contents de cette soirée. Il y a eu, dans le hall, une exposition de témoignages de ces réfugiés qui sont à Champtercier. Et qui ont écrit et calligraphié, parce qu'il y a des bénévoles qui leur font faire de la calligraphie, hein, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas encore leur papier. Donc c'est vrai que c'est bien ils apprennent le français, mais ils ont aussi besoin d'animation, de connaître le pays. Et tous ces bénévoles consacrent beaucoup de temps à leur faire faire des arts plastiques, à leur faire découvrir la région, faire du sport, etc. Et donc, c'est un grand élan de solidarité qui faisait vraiment chaud au cœur à ceux qui étaient là. Mmh. Et puis, aux 32 réfugiés qui ont été invités à moitié par le cinéma, qui a offert les places, et moitié par Amnesty International Digne, qui a offert les autres places. Voilà, très belle soirée. Nous avons aussi eu la présence d'un membre de la Roya Solidaire,
que j'ai pu interviewer.
Voilà, l'interview est passée sur Fréquence Mistral.
On peut retrouver sur le site de Fréquence Mistral, voilà.
Ouais. Voilà. Donc il était de passage et c'était vraiment bien qu'il soit là. Il nous a apporté son témoignage sur cette vallée qui est un peu la vallée rebelle des Alpes-Maritimes. Hein, les autorités pensaient que cet afflux de migrants allait causer la division dans cette vallée. Alors, c'est l'inverse qui s'est passé. Les gens se sont, au contraire, montrés extrêmement solidaires entre eux et pour les réfugiés. Et ils jouent à cache-cache un peu avec les gendarmes pour les protéger, les nourrir. Parce que, bon, ça paraît aberrant au pays des droits humains, nourrir des gens qui sont en détresse peut vous coûter des ennuis judiciaires. Voilà. Donc, on va maintenant écouter Jean-François Dubost, qui est spécialiste justement des questions de migration à Amnesty International, et qui va répondre à trois questions liées au décret anti-immigration de Donald Trump. Donc, voilà les questions. Qu'est-ce que ce décret change par rapport au précédent ? Parce que le premier décret avait été refusé par le Congrès, le deuxième aussi finalement. Et c'est bien que cette politique de Donald Trump, qui nous inquiète énormément, elle est souvent rejetée ou par les juges ou par le Congrès. Donc, en quoi pose-t-il problème ce décret que Donald Trump veut faire passer, et quelles conséquences au-delà des États-Unis ? Voilà, on écoute Jean-François Dubost.
Ce décret signé par le président américain récemment ne change absolument rien. Il est tout à fait identique au précédent décret qui a été suspendu par la justice américaine. Il ne change rien parce qu'il continue de prévoir une interdiction d'entrée pour 90 jours pour les ressortissants de 6 pays qui sont l'Iran, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Libye et la Syrie. Ce sont d'ailleurs des pays qui sont les principaux pays d'origine des réfugiés aujourd'hui dans le monde. Il ne change rien non plus parce qu'il continue de prévoir une suspension de la réinstallation de réfugiés particulièrement vulnérables sur le sol américain, une suspension pour 120 jours. Il faut savoir que ces réfugiés vulnérables sont des personnes qui ont fui les atrocités de la guerre, qui sont des survivants de la torture, qui ne sont pas en sécurité là où elles ont tenté de trouver refuge. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont privées d'accès au territoire des États-Unis. Et puis, il ne change rien parce qu'il prévoit encore de diviser par deux le nombre de personnes qui, après ces 120 jours, pourront être admises sur le sol américain. L'Amérique s'est engagée pour accueillir 100 000 personnes en 2017. Eh bien, l'engagement sera réduit à 50 000. Pour nous, Amnesty International, ce décret pose problème pour deux raisons. Et la première, c'est qu'il est profondément discriminatoire. Les personnes qui viennent de ces pays, ces six pays, sont visées parce qu'ils ont la nationalité de ces six pays. C'est une discrimination en raison de leur origine. Mais ces personnes sont également discriminées en raison de leur religion, puisque dans ces six pays, la majorité de la population est musulmane. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Cela s'inscrit parfaitement dans la rhétorique à la fois du candidat Trump, mais également du président, qui a toujours visé les musulmans comme une catégorie de la population en leur appliquant à la fois un traitement de défaveur, mais également en tenant des propos haineux et extrêmement discriminatoires à leur encontre. Or, il faut rappeler que les États-Unis, comme d'autres pays dans le monde, ont signé des textes au niveau international qui interdisent de discriminer les personnes en raison de leur origine et de leur religion. Ce principe de non-discrimination est essentiel, c'est ce qui garantit qu'au sein de la communauté humaine, personne ne peut être considéré comme étant inférieur aux autres. C'est exactement ce que fait pourtant le président Trump avec ce décret. Le deuxième problème avec la signature de ce décret, c'est que les États-Unis font voler en éclats la solidarité qui devrait exister au niveau mondial pour protéger et accueillir les réfugiés. Jusqu'à présent, ils accueillaient environ 60% des réfugiés vulnérables dans le monde. Cette décision de suspendre ce programme d'admission sur leur territoire de réfugiés, voire même peut-être de le diviser par deux, sonne un peu le glas de la solidarité, et alors même qu'il s'agit d'une question qui devrait être résolue ensemble, entre États, main dans la main, pour protéger les réfugiés. L'autre problème, c'est que ce décret prévoit de vérifier auprès des pays d'origine des personnes qui se présentent aux frontières américaines des informations sur ces personnes, ce qui est extrêmement grave parce que s'il s'agit de réfugiés, ces personnes fuient justement les autorités de leur pays. Or, prendre contact avec les autorités du pays d'un réfugié, c'est le mettre en danger, c'est mettre sa famille en danger, c'est mettre ses proches en danger. C'est aux antipodes de ce qui permet aujourd'hui de protéger les réfugiés dans le monde. Premièrement, la signature de ce décret va concrètement et humainement placer les personnes dans l'insécurité, voire même peut-être va conduire ces personnes à mourir. Les personnes qui devaient être accueillies sur le territoire américain sont des personnes qui étaient vulnérables, des réfugiés vulnérables, affectés de maladies graves, ne pouvant être soignées là où elles se trouvent actuellement dans des pays de refuge, ou même des personnes qui n'étaient pas en sécurité dans des camps de réfugiés, dans des zones urbaines, dans des villes, des pays où elles avaient tenté de se réfugier en fuyant le leur. Cette décision de ne plus accueillir, de suspendre et peut-être de réduire drastiquement l'accueil des réfugiés sur le territoire américain a pour conséquence de briser les espoirs de ces personnes d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie en sécurité, et réellement les place dans un grand danger, d'autant que dans ces pays où elles sont réfugiées, et où elle souhaitait, qu'elle souhaitait quitter pour les États-Unis, les autorités, de plus en plus, face au nombre important de réfugiés, mettent en place des pratiques visant à les renvoyer dans leur pays, à les détenir, puis les renvoyer, les refouler, les forcer à retourner ce qu'elles avaient fui, à savoir la guerre, les horreurs, la persécution. C'est une façon aussi indirecte de mettre en danger ces personnes en signant ce décret. Deuxièmement, la signature de ce décret présidentiel est un mauvais exemple mondial. L'exemple de la haine, de la discrimination, de la non-solidarité, un exemple qui concrètement met des vies humaines en danger. Notre crainte à Amnesty International aujourd'hui, c'est que ce décret-là inspire des hommes et des femmes dans le monde, et peut-être même en France, pour reproduire ces mesures qui sont discriminatoires et qui déshumanisent des groupes entiers de personnes.
Voilà, alors maintenant, nous allons écouter Leni Escudero, qui chante L'affiche rouge, cette chanson qui a été écrite par Aragon et chantée par beaucoup d'artistes, et qui nous rappelle que des étrangers à la France ont combattu en France le nazisme. L'affiche rouge.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos fantômes morts pour la France. Et les mornes matins étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard on guérira. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma mélinée, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Voilà la très belle chanson, L'affiche rouge, chantée par Leni Escudero. Voilà, alors maintenant, je vais vous donner des nouvelles de Biram Dahabé, qui est un opposant politique mauritanien, défenseur des droits humains, prix des droits de l'homme de l'ONU, prix Frontline Defenders, prix Tulip, Il a reçu de nombreux prix internationaux pour son combat non violent contre l'esclavage. L'esclavage qui existe toujours dans son pays, puisqu'il est classé au premier rang des pays esclavagistes. Il évalue à peu près entre 500 et 600 000 personnes noires, haratines, en Mauritanie, qui sont détenues en esclavage, c'est-à-dire qui sont considérées comme des objets, hein, l'esclavage tel qu'on l'a connu au Moyen-Âge. Et beaucoup de personnes pensent qu'il a complètement disparu. Or, il existe et il est même très important dans ce pays, notamment, où donc ces personnes naissent esclaves, peuvent être données, vendues, échangées, voilà, un peu comme des objets. Et donc il a fait la promesse à son père de faire des études pour pouvoir lutter de toutes ses forces et de manière non violente contre l'esclavage, contre cet esclavage. Et en particulier et en général, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de prison pour son combat, qui a été chaque fois soutenu par Amnesty International. Il le dit lui-même que sans nous, il serait sans doute en prison encore. Hein. On a permis de le faire libérer plusieurs fois. Et c'est devenu un grand défenseur des droits humains en général. Et il parcourt le monde pour dénoncer cette injustice qui est faite aux Noirs en Mauritanie, mais plus largement, il dénonce le véritable apartheid non écrit qui existe notamment au Moyen-Orient, dans les sociétés du Golfe et jusqu'en Inde, où il dit que ces pays n'ont pas encore intégré dans leurs pratiques sociales l'humanité vraie et totale de l'homme noir. Au Yémen, en Syrie, en Irak, il est un sous-homme, synonyme d'esclave, sans douleur, qui ne peut que servir et subir. Encore aujourd'hui, dans des aéroports de pays arabes, j'entends « il faut contrôler les papiers de cet esclave ». Voilà, donc c'est vrai que... En Afrique, il y a eu la colonisation, il y a eu la traite faite par les Occidentaux, hein, qui est très connue et qui est dénoncée par tous les pays d'Afrique, etc. Mais on a oublié aussi qu'il y avait une traite qui était faite par d'autres chefs noirs, mais aussi une traite très importante faite par des arabo-musulmans. Et c'est ce qui existe en Mauritanie. Hein, ces arabo-berbères, pardon, sont une minorité, mais ceux qui ont tous les pouvoirs, et qui maintiennent en esclavage entre 500 et 600 000 personnes, ce n'est pas rien. Hein. Voilà, donc en même temps, il est aussi très inquiet par rapport à l'évolution des pays occidentaux, hein, et il nous dit qu'un danger immense se dessine de mettre au pouvoir des gens qui visent à abolir les valeurs actuelles de liberté, de droit. Je dis aux jeunes, parce qu'il est intervenu dans un lycée de Pertuis, là. Je dis aux jeunes que rien n'est acquis, même en Occident. La résistance pacifique continue, le monde est trouble, mais il faut garder l'optimisme et croire en l'avenir. Voilà. Donc c'est une personne remarquable pour son engagement non violent pour les droits humains. Et il rêve de faire de la Mauritanie un pays respectueux des droits humains. Voilà. Il prend... Souvent, il est comparé en Afrique, hein, comme le Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Et il peut faire sienne la phrase de Martin Luther King, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Voilà, alors sur ces paroles de Martin Luther King, qui sont très justes à l'heure actuelle, parce que le monde est dangereux, mais il faut vraiment apprendre à vivre comme des frères, pour pas mourir comme des idiots, hein, sur tous les plans, autant écologiques que le respect des droits humains, hein, qui sont pas un problème, mais qui font partie de la solution. Voilà, donc c'est une personne importante. Elle a été reçue par des lycéens, Biram Dabé a été reçue par des lycéens à Pertuis. Ensuite, il est intervenu dans une réunion interrégionale d'Amnesty qui regroupait les nombreux groupes autour d'Avignon, de la Drôme Ardèche, Languedoc et PACA. Ensuite, il est en ce moment à Caen, où il a fait une conférence hier soir. Voilà, et puis après, il va encore continuer sa tournée en Belgique et avant de rentrer chez lui. Et voilà, donc je tenais à à parler de lui parce que c'est une belle action. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ce qu'il fait sur son site Biram Dahab. Alors Biram B-I-R-A-M D-A-H A-B-A-B-E-I-D.org. Voilà, et vous verrez un peu ses actions. Alors maintenant, on va écouter un chanteur qu'on n'entend pas beaucoup, qui plaît beaucoup à une amie, une de mes amies. Alors je me suis dit, tiens, je vais le passer pour elle. Maurice Bénin, les contes sont bons.
C'est qui cette amie?
Marie-Claire.
Marie-Claire, voilà, pour Marie-Claire, les contes sont bons. Maurice voilà. Bénin, grand chanteur magnifique.
Sont bons pour les pays sous-développés. Il sait pour nous vivre la manœuvre, bon marché, canasse, pétrole et arachides, céréales, bananes, métaux et cuivre.
Aïe, aïe.
Les comptes sont bons pour les pays sous-développés. Les avons hissés à l'arrière-garde du progrès et leur idée acclimatisée dans tous leurs produits qu'on leur vend. Après,
aïe, aïe, rrrr.
Viva Franco, mucho típico, bye. Les comptes sont bons pour les pays sous-développés. Ils vous disent merci, écoutez leur ventre affamé. Au supermarché, on vend en boîte les produits issus de leur massacre.
Aïe, aïe, oui.
Les comptes sont bons pour les pays sous-développés. Plus ils crèvent de faim et plus vous vous enrichissez. Leurs gouvernements sont à la botte des trusts et des banques investissant. Les comptes sont bons pour les pays sous-développés. Notre tâche est grande d'avoir été les éduqués. Merci les écoles, merci la France. Taquez-vous sur nous, race rampante. Les comptes sont bons pour les pays sous-développés. La Croix-Rouge est là et le club méditerrané. Et l'on sa console pour les vacances. Pas petit négro, pur de jouissant. C'est
aïe.
Quand nous aurons terminé de les civiliser, quand leurs autoroutes seront tracées, quand toutes leurs télés seront branchées.
Et aïe.
Quand nous aurons fini de sucer tous leurs produits, quand leur terre n'en pourra plus de pourriture chimique, nous serons déjà à l'heure suprême dans leur masque à gaz ou à leur sous-terre.
Aïe. Toujours en retard, c'est qu'on pays se développe. Toujours en retard, c'est qu'on pays se développe.
Voilà, nous partons maintenant au Yémen. Un pays qui a subi une guerre depuis 2 ans. Et depuis le début de ce conflit, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, notre pays, continuent de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Ils alimentent ainsi les violations de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les Yéménites. 10 fois plus d'argent pour bombarder les civils que pour les protéger. C'est en effet 10 fois... le montant de l'aide versée ou prévue ces 2 dernières années pour le Yémen par le département d'État américain et le ministère britannique du développement international, aide dont le montant total est estimé à 450 millions de dollars. Des armes fournies par le passé par des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont été utilisées pour commettre des violations flagrantes et ont accéléré la catastrophe humanitaire. En effet, en ce moment, 18 millions, presque 19 millions de personnes au Yémen sont dépendantes de l'aide humanitaire et ont désespérément besoin de nourriture, d'eau, de carburant et d'abri pour survivre. Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme, soulignant que la malnutrition atteignait un tel niveau que le pays était au bord de la famine. Un peu la situation aussi qui règne au Soudan du Sud notamment, où il y a la famine, pays de notre ami là, qui est présent aujourd'hui. De nombreux civils ont été tués, 4600 on estime, plus de 8000 blessés depuis que la coalition menée par l'Arabie Saoudite a commencé ses frappes aériennes. Et au cours de ces deux dernières années, nous avons rassemblé des informations sur un vaste éventail de violations du droit international et de crimes de guerre commis par tous les belligérants. Ces raids aériens ont beaucoup tué, beaucoup blessé et détruit des habitations, des biens, des infrastructures civiles dans des attaques menées sans discrimination et parfois délibérées. Les membres de la coalition ont eu recours à des bombes à sous-munitions fabriquées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil. Et ce type d'arme est complètement interdit par le droit international parce que je vous rappelle que ces bombes lâchent une multitude de petites bombes à sous-munitions. Et ces petites bombes, en arrivant au sol, il y a 30% qui n'explosent pas et qui peuvent être assimilées à des mines antipersonnelles. Donc les enfants qui sont là, des fois s'approchent ou marchent dessus ou jouent avec et ça leur explose, ça les mutile ou ça les tue. Donc ce sont des armes qui sont complètement interdites par le droit international et qui sont toujours utilisées au Yémen. On a aussi enquêté sur 30 attaques lors desquelles les forces pro-outils et anti-outils ont procédé à des tirs aveugles d'artillerie, de mortiers ou de roquettes dans les villes d'Aden et de Taiz, dans le sud du pays, tuant 68 civils. À Taiz, les forces anti-outils ont aussi harcelé et menacé du personnel de santé, fermé des hôpitaux et mis des civils en danger en stationnant des combattants et en installant des positions militaires à proximité d'établissements médicaux. Les outils ont également fortement réprimé la liberté d'expression, d'associations et de réunions pacifiques dans les zones placées sous leur contrôle. Voilà, donc les violations sont de part et d'autre. Il y a 400 enfants qui sont morts par cette guerre. Donc nous demandons absolument un embargo sur les armes. Hein, ça, c'est cette demande au niveau de la France. Et puis qu'il y ait une enquête internationale sur toutes les violations du droit humanitaire et du droit international sur tous ces soupçons de crimes de guerre. On a réuni une pétition plus de 18 000 signatures pour demander de faire cesser les ventes d'armes par la France. Et l'Élysée a refusé de nous recevoir pour remettre ces pétitions. Mmh. Voilà. Voilà la situation au Yémen, dramatique, et puis avec la famine maintenant qui fait des ravages. On va à nouveau écouter Maurice Bénin dans la chanson « À chaque vie ».
Devant cet arbre immense et calme, tellement sûr de son amour, devant cet homme qui regarde ses mains voltigées tout autour de sa maison et de sa femme, devant la mer et ses calèches, devant le ciel épaule nue, devant le mur, devant l'affiche, devant cette tombe encore fraîche, devant Dieu et devant les hommes, à chaque vie d'être vécu. Devant la mer et ses calèches, devant le ciel, épaules nues, devant le mur, devant l'affiche, devant cette tombe encore fraîche, devant tous ceux qui se réveillent, devant tous ceux qui vont mourir, devant la porte grande ouverte, à la lumière et à la peur, devant Dieu et devant les hommes, à chaque vie d'être vécu, à chaque vie d'être vécu.
Voilà, très belle chanson de Maurice Bénin qui montre l'importance de chaque vie qui doit être vécue et voilà, qui apporte un peu de douceur dans ce monde dur. On va maintenant parler de la responsabilité des entreprises mères par rapport à leurs filiales. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à Amnesty International parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de filiales de grandes entreprises faisaient des atteintes nombreuses non seulement à l'écologie, bien sûr, à la planète, mais aussi aux humains, des atteintes aux droits humains. Et donc, on a fait du forcing pour que les États prennent des mesures pour responsabiliser les entreprises mères, afin qu'elles soient tenues responsables de ce qui est fait par leurs filiales, parce que c'est trop facile de se dégager en disant « ce n'est pas nous ». Voilà, ils sont responsables des entreprises sous-traitantes. Alors, on va écouter un cas bien particulier, celui de l'huile de palme. On va écouter sur ce sujet Sabine Gagné, qui est chargée de plaidoyer pour le programme d'Amnesty International, responsabilité des États et des entreprises. Voilà, on lui a posé trois questions. Qu'est-ce que l'huile de palme? Quel est le rapport avec les droits humains? Et que peut-on faire contre ces abus? Nous l'écoutons.
Qu'est-ce que l'huile de palme?
L'huile de palme est une huile végétale extraite des fruits de palmiers. On la retrouve dans les produits quotidiens, le chocolat, les crèmes glacées, la margarine, les biscuits, mais aussi dans les shampoings, les savons et les biocarburants. Ces dernières années, la production a terriblement augmenté. Elle a doublé ces 10 dernières années. Elle va très probablement doubler d'ici à 2020. L'huile de palme est principalement produite en Malaisie et en Indonésie, l'Indonésie étant le plus gros producteur mondial avec 35 millions de tonnes par an.
Quel est le rapport avec les droits humains?
Cela fait plusieurs années que la dégradation de l'environnement liée à la culture de l'huile de palme est dénoncée dans des campagnes mondiales. On a parlé beaucoup de la déforestation ou de la disparition des orangs-outans. Ce sont des questions très graves qui ont déjà fait l'objet de dénonciations. Ce qu'on sait moins, c'est que la culture de l'huile de palme se fait malheureusement trop souvent au mépris des droits humains. C'est justement sur cet aspect qu'Amnesty International a enquêté, notamment pendant de longs mois en Indonésie, dans une entreprise singapourienne qui s'appelle Wilmar. Wilmar représente 43% du commerce mondial d'huile de palme et nous avons trouvé dans ses filiales et ses fournisseurs des violations de droits humains. Nous avons constaté du travail d'enfants, du travail forcé, des discriminations envers les femmes et des conditions de travail extrêmement dangereuses pour les travailleurs qui sont exposés à des produits chimiques qui mettent en danger leur santé. Ces ouvriers ont souvent des objectifs de récolte parfaitement inatteignables. Et lorsqu'ils ne remplissent pas leurs objectifs de la journée, cette charge de travail est reportée à leur journée du lendemain. Ils sont souvent très peu payés et payés en dessous du salaire minimum. Et lorsque ces ouvriers se plaignent de leur charge de travail, ils sont menacés d'être renvoyés.
Que peut-on faire contre ces abus ?
Wilmar, cette entreprise singapourienne sur laquelle nous avons enquêté, vend son huile de palme à des marques mondialement connues de l'agroalimentaire. Nestlé, Unilever, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Kellogg's. Ces entreprises, qu'elles le veuillent ou non, ont des responsabilités. Elles doivent s'assurer, compte tenu des règles internationales, que leurs sous-traitants, leurs filiales, ne violent pas les droits humains. Nous nous adressons principalement à ces entreprises et pour cela nous avons besoin de tous et nous avons besoin des consommateurs qui doivent être informés et sensibilisés. C'est pourquoi nous lançons une pétition à destination de ces entreprises pour leur demander d'où provient leur huile de palme et nous leur demandons de s'assurer qu'il n'y a pas de violation de droits humains dans leurs filiales ou leurs sous-traitants. Pour faire réagir ces entreprises, nous avons besoin de votre mobilisation. Nous comptons sur vous et vous pouvez aller signer la pétition sur amnesty.fr.
Voilà. Donc, elle vous incite à aller signer la pétition concernant l'huile de palme sur le site amnesty.fr. Et quand vous aurez signé cette pétition, vous pouvez aussi signer les autres. Alors, pour information, je vais vous dire un peu ce qu'il y a sur notre site en ce moment et vous rajoutez vos signatures et chaque signature a son poids, croyez-moi, c'est très important. Donc, vous avez une pétition pour la Syrie qui s'appelle « Pas d'impunité pour les crimes commis en Syrie ». Une pétition pour les élections 2017 qui s'intitule « Je veux une France terre d'accueil et de liberté ». Une autre pétition pour l'annulation du décret anti-réfugiés de Donald Trump, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une pétition pour une Mexicaine, Veronica Razo, qui a été torturée et qui est incarcérée sans preuve, pour demander sa libération et des enquêtes sur ses tortionnaires. Une pétition adressée à Skype, qui s'intitule « Nos conversations privées doivent le rester ». Une pétition pour la Hongrie, pour demander la liberté pour Ahmed, accusé à tort d'être un terroriste. Une autre pétition en Iran pour une femme qui est emprisonnée à vie sans l'ombre d'une preuve. Elle s'appelle Zevna Jalalian. En Azerbaïdjan, deux personnes ont été torturées et incarcérées pour un graffiti. Hein. Ces deux personnes faisaient d'ailleurs partie des 10 jours pour signer de décembre. Vous avez aussi, toujours faisant partie des 10 jours pour signer, le photojournaliste Shaukan en Égypte, qui est emprisonné parce qu'il a fait son métier de photojournaliste, simplement. Vous avez une pétition pour demander l'arrêt des renvois forcés de réfugiés somaliens dans le camp de Dadaab, au Kenya. Il y a environ 260 000 réfugiés qui risquent d'être renvoyés en Somalie, un pays déchiré par la guerre. Vous avez une pétition concernant l'Union européenne, une menace d'expulser un premier réfugié syrien vers la Turquie, Nori, il s'appelle. Il est détenu en Grèce depuis début septembre 2016. Son crime, avoir demandé une protection après l'entrée en vigueur de l'accord UE-Turquie. Une pétition pour Samsung qui s'intitule « D'où vient le cobalt de nos téléphones ?» Donc ça fait écho à ce qu'on vient de parler sur la responsabilité des entreprises mères par rapport à leurs filiales. Parce qu'il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, des enfants et des adultes travaillent dans des mines, dans des conditions extrêmement dangereuses, sans outils adéquats ni protection, pour extraire le cobalt de nos téléphones portables. Voilà, et puis il y a une pétition aussi qui concerne la Turquie pour demander justice par rapport à une journaliste. Alors je vous lis par exemple, donc quand vous cliquez sur la pétition, vous avez le texte de la demande que vous signez. Et ensuite, toutes ces pétitions sont recueillies et portées aux ambassades. Voilà, pour ce cas-là, je vais vous la lire. Vous voyez un peu le style. Monsieur le ministre de la Justice, l'avocate et ancienne journaliste Eren Keskin est la cible d'un harcèlement judiciaire constant. En 2014, Eren Keskin a été condamnée pour insulte à l'État turc parce qu'elle avait parlé du meurtre d'un enfant de 12 ans par l'armée. Cette militante de longue date a été traînée devant les tribunaux plus de 100 fois, notamment pour avoir dénoncé le sort de la minorité kurde en Turquie. Ce nombre exorbitant de procédures judiciaires montre à lui seul le harcèlement dont elle est l'objet. Eren ne doit pas être emprisonnée pour avoir simplement critiqué l'État. Un État véritablement solide est celui qui écoute ses critiques. Monsieur le ministre de la Justice, alors qu'Eren Keskin est interdite de voyager et que de nouveaux procès risquent de l'envoyer en prison pour longtemps, nous vous demandons de cesser le harcèlement judiciaire contre Eren Keskin et veiller à ce qu'elle puisse exercer son droit à la liberté d'expression et mener à bien son travail de défenseur des droits humains. Nous vous demandons aussi d'abroger l'article 301 et les autres articles du Code pénal turc, ainsi que les articles des lois antiterroristes qui répriment le droit à la liberté d'expression. Veuillez agréer, Monsieur le ministre de la Justice, l'expression de notre très haute considération. Voilà un exemple, donc c'est toujours en termes très courtois que nous nous adressons aux autorités, mais les demandes sont fermes et nettes et toujours pour demander le respect des droits humains. Donc n'hésitez pas à aller sur le site amnesty.fr pour agir avec nous en signant les pétitions. Et bien sûr, vous pouvez aussi agir de multiples façons en faisant un don à Amnesty, puisque Amnesty ne reçoit aucune subvention et ne vit que par les dons. Et puis aussi adhérer, faire partie d'un réseau d'action urgente ou venir au groupe de Digne si vous êtes dinois, ou au groupe de Manosque si vous êtes dans la région de Manosque, ou au groupe de Barcelonnette si vous êtes dans la région de Barcelonnette. Voilà, alors on va parler maintenant, avant de passer un disque, je retrouve mon papier, voilà, du prix d'ambassadeur de conscience 2016. C'est un prix qui est décerné par Amnesty International et qui est partagé cette année, en 2016, donc, par la musicienne Angélique Kidjo et trois groupes de jeunes militants africains. Un groupe qui s'appelle Y'en a marre, au Sénégal. Un groupe qui s'appelle Le Ballet Citoyen, au Burkina Faso. Et un groupe qui s'appelle Lucha, en République démocratique du Congo. Donc rien que les titres sont significatifs, hein. Parce qu'il y a des gens qui s'accrochent beaucoup au pouvoir et qui veulent même changer la constitution pour pouvoir continuer à s'enrichir au détriment des populations. Alors par exemple, le cas de Lucha, en République démocratique du Congo, c'est un mouvement local de jeunes militants pacifiques qui est basé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il concentre son action sur les questions sociales, les droits humains et la protection des civils contre les groupes armés. Au moins 9 personnes liées à ce mouvement sont actuellement en prison. En mars 2015, Fred Boma a été arrêté avec 26 autres militants par les forces de sécurité lors d'une réunion avec son ami Yves. Et Fred et Yves avaient fait partie des 10 jours pour signer de l'année d'avant. Et nous avions, grâce à toutes les personnes qui avaient signé, nous avions obtenu leur libération et ils nous avaient écrit une lettre de... Fred nous avait écrit une lettre de remerciement que je vais vous lire parce qu'il y a beaucoup de Dinois qui, à la médiathèque ou au lycée Pierre-Gilles de Gênes, ont signé la pétition pour eux. « Chers amis d'Amnesty International, je prends ma plume aujourd'hui pour vous remercier pour votre soutien indéfectible pendant ces 12 longs mois que je viens de passer derrière les barreaux. Dès le début, vous n'avez ménagé aucun effort pour documenter et communiquer sur notre cas. Votre travail nous a certainement évité de subir certains traitements qui auraient pu nous être fatals. J'en profite aussi pour vous remercier et vous encourager pour le soutien manifeste que vous accordez à la Lucha et ses militants à chaque fois que besoin se présente. À travers votre organisation, j'aimerais remercier également ces milliers de citoyens du monde qui m'ont écrit ou simplement pensé à moi et à Yves, mon compagnon d'infortune, grâce à vos intenses campagnes. La RDC, mon pays, est à un grand tournant de son histoire. Après des longues années de colonisation suivies des décennies d'une dictature féroce, nous voilà défendre notre démocratisation. Les violations de droits de l'homme, déjà en croissance actuellement, risquent d'être légion dans les mois à venir. Mon peuple, s'il ne peut pas directement compter sur tous les États, peut néanmoins compter sur les peuples du reste du monde avec lesquels nous partageons les idéaux de liberté, de fraternité et de dignité, en sachant que nous sommes tous responsables de tous à l'égard de tous. Le peuple congolais peut compter sur Amnesty International. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour le travail que vous abattez avec abnégation au quotidien pour nous et pour tous ceux qui, à travers le monde, sont dans des situations similaires. Voilà, c'était la lettre de remerciement de Fred Boma, libéré grâce aux militants d'Amnesty et aux citoyens qui ont signé la pétition en sa faveur. Et voyez que son combat rejoint aussi celui de Biram Dahabé pour un monde juste et respectueux des droits humains. Voilà, alors maintenant, nous allons écouter Angélique Kidjo, qui a reçu aussi le prix Ambassadeur de Conscience 2016, et sa chanson « Agolo ».
Retrouve.
Voilà, on reprend donc après cette belle chanson, les activités donc du groupe Dinois. Vendredi 7 avril, nous allons intervenir au lycée du Sacré-Cœur sur le thème des droits humains en fait, dans le cadre de leur semaine de solidarité. Et puis le samedi 8 octobre, nous avons l'Assemblée générale de la région PACA Corse, donc on va revenir sur les grandes causes que nous avons menées, le festival, on va faire un peu le bilan du festival de films. Et puis, je l'annonce déjà, vendredi 5 mai et samedi 6 mai, c'est notre fameuse foire aux livres de printemps à l'Atrium. Et là, nous avons de nouveau de nombreux livres que l'on nous a donnés depuis la dernière foire aux livres. Donc, il y aura beaucoup de nouveautés et donc, bien sûr, des informations d'Amnesty, des pétitions à signer et puis beaucoup de livres à consulter et acheter à prix modique pour permettre à Amnesty International de continuer son combat contre l'infamie. Voilà. Et puis, je voulais quand même, après ces nouvelles qui ne sont pas toujours bien réjouissantes, parler d'une bonne nouvelle. C'est l'Afrique du Sud qui, à la suite de la Gambie, renonce à son projet de se retirer de la Cour pénale internationale. Je vous avais dit lors d'une émission précédente que la Cour pénale internationale était menacée par certains pays qui voulaient se retirer. Et finalement, l'Afrique du Sud, à la suite de la Gambie, a fait marche arrière. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut absolument pouvoir juger et punir les auteurs des crimes les plus graves, hein, qui sont crimes de génocide, crimes de guerre, enrôlement d'enfants soldats, etc. Voilà, alors on va finir cette émission par Angélique Kidjo qui chante avec Angoun, une chanson de
Maxime
Le Forestier. Merci. Être né quelque part, chanson qui est toujours
d'actualité. Magnifique chanson. Merci Régis. On se quitte sur cette chanson. Oui.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours. Des oiseaux de passage.
à vous sont heureuses, être né quelque part. Être né quelque part, c'est parti quand on veut, revenir quand on part. Thank you.